Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
C'est pour moi.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous l'avez? Moi, je l'ai parfois, mais à peine. Anne-Cécile Perrin, la réalisatrice de cette émission, ça oui, elle l'a. Rien à voir avec ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, ma chère France Gall. Non, c'est le vertige qu'elle a, Anne-Cécile. Et l'emploi du verbe avoir, ici, me fascine. On a le vertige ou on ne l'a pas. Mais de quoi parle-t-on précisément? Est-ce la peur de tomber? Est-ce l'envie paradoxale de se frotter à la chute? Pourquoi cette boule au ventre? Pourquoi cette impression que le cœur se retourne? Ce qu'on appelle vertige dans le langage courant est en fait la peur du vide. Voilà qui mérite quelques précisions. Un spécialiste du cerveau est avec nous ce matin. J'ai aussi invité deux personnes qui ne l'ont pas du tout, un acrobate et une alpiniste, pour essayer de comprendre comment ils ont domestiqué la peur de tomber, si cela est seulement possible, et pour qu'ils nous racontent leur relation avec le vide, ce grand rien qui peut prendre tellement de place. C'est parti, apprivoiser le vertige.
Dorothée Barba sur France Inter.
Et je vous présente mes trois invités. Deux sont à distance et un avec moi en studio. Thyria Carivel, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes artiste de cirque et musicien. Vous avez monté plusieurs spectacles avec la comédienne Vima Laponce. Votre nouvelle création s'intitule La Dimension d'après. Ce sera en tournée un peu partout à l'automne prochain. Alors je suis obligée d'abord de vous demander une confirmation. Vous ne l'avez pas?
Non, j'ai pas le vertige.
Jamais?
Jamais. Je pense que c'est une zone de jeu. Je pense qu'en tant qu'artiste de cirque, c'est vraiment un endroit de travail, quoi. Et puis même qu'on côtoie un peu tout le temps. Mmh. Je pense que c'est plutôt il y a une sorte de plaisir dans une perte. Voilà.
Donc on va se promener à Étretat et que vous vous penchez en haut de la falaise, ça va très bien.
Ça va très bien, ça fait quelque chose, quoi, mais ça va.
Mais c'est presque drôle, c'est amusant. En direct avec nous par téléphone, une femme qui ne l'a pas non plus a priori, une très grande alpiniste. Bonjour Elisabeth Revol.
Bonjour.
Vous êtes connue notamment pour vos prouesses dans l'Himalaya et vous êtes en ce moment chez vous dans la Drôme. À quelle altitude d'ailleurs?
Oh, c'est très bas, on est à 300 mètres, pas plus.
Vous ne l'avez pas non plus, Elisabeth Revol?
Non, je ne l'ai pas, non, effectivement. Après, comme je disais, en fait, c'est quelque chose que j'ai dû apprivoiser, parce que naturellement, je pense que tout le monde a un peu cette sensation de peur et est happé par le vide, en fait. Mais je pense que voilà, au fil des années, il y a un entraînement qui s'est créé et puis un regard qui s'est aiguisé par rapport au vide. Et du coup, on n'a pas cette boule au ventre, on n'a pas cette peur qui sévit.
Et mon troisième invité, également à distance, est médecin ORL au CHU de Caen et chercheur en neurosciences. Bonjour Stéphane Bénard.
Bonjour.
Je remercie les équipes de France Bleu à Caen pour la liaison avec vous en duplex ce matin. Alors, il faut planter le décor d'abord et définir ce dont on parle. Avoir le vertige, c'est une expression courante, mais qui ne désigne pas le vertige au sens médical.
Oui, c'est effectivement, il y a une définition qui n'est pas tout à fait bonne. Le vertige est plutôt une sensation de mouvement et de rotation. C'est ce qu'on a quand on a un problème d'oreille interne, par exemple. Et aussi un choc émotionnel peut aussi nous induire un vertige, mais qui vient directement du cerveau.
Voilà, on peut avoir des vertiges en étant allongé sur son lit, par exemple.
Tout à fait. Ouais, tout à fait, parce qu'on a un organe qui fonctionne pas bien et l'autre de l'autre côté de l'oreille fonctionne bien, ça fait un déséquilibre et on a une sensation de tourner.
Mais la peur du vide qu'on appelle donc vertige dans le langage courant, est-ce que ça provoque parfois des vertiges au sens médical?
Pas directement. La peur du vide est vraiment une sensation un peu différente, une sensation sensorielle. Vous avez trois organes qui nous assurent notre équilibre sur Terre, sur le plancher des vaches, on va dire. Surtout en Normandie, j'ai le droit de le dire. C'est les sensations du corps, l'oreille interne, c'est tous les mouvements, et puis le système visuel. Voilà. À partir de ça, vous avez trois trépieds pour un tabouret.
Comment vous expliquez cette confusion linguistique? Pourquoi est-ce qu'on appelle vertige la peur du vide, docteur Bénard?
J'aurais pas cette prétention, mais c'est vrai que dans la sensation, lorsqu'on est, on va dire, au bord d'une falaise, hein, ou d'une plateforme, maintenant il y a plein de buildings où on peut aller voir des beaux paysages. C'est vrai que ça donne des sensations un peu bizarres finalement. Hein. On se sent soit c'est très agréable, soit ça fait c'est très désagréable. Et derrière, par contre, en retour, vous avez une émotion. Et l'émotion elle-même, l'émotion peut induire ou aggraver des problèmes de stabilité. Notre équilibre peut être instable et on peut se dire j'ai le vertige, je suis pas tout à fait stable. Donc derrière, c'est probablement un abus de langage, mais les sensations sont quand même là.
Il y a un lien effectivement au regard des sensations entre les deux. Alors avec votre permission, ce matin, on parle bien du vertige au sens commun du terme, de la peur du vide. Racontez-nous, chers auditeurs, chères auditrices, vos plus belles histoires de trouille du vide. Dites-nous si vous avez apprivoisé cette peur, surtout. 01 45 24 7000 pour intervenir en direct dans l'émission. Connectez-vous sur le site ou sur l'application France Inter. Vous pouvez également nous laisser une note vocale. Allez, même pas peur, lancez-vous. I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby. When it comes, like my oldest friend, have you got a friend? In the night, you say you miss me now. What a way to lose your head. You say you miss me now. Your Head, c'était London Grammar.
France Inter, l'été comme jamais.
Apprivoiser la peur du vide. On parle de vertige jusqu'à 10h avec mes trois invités en direct. Stéphane Bénard, médecin ORL et chercheur en neurosciences. Thierry Carivel, qui est circassien, acrobate. Et Elisabeth Revol, qui est alpiniste. Une auditrice au standard de France Inter. Bonjour à vous, Isabelle.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Est-ce que vous avez le vertige?
En montagne, oui, j'ai eu le vertige à plusieurs reprises dès l'instant où les sentiers sont un petit peu, on va dire, aériens, avec beaucoup de pentes, un peu de vide, je suis pas très à l'aise. Mais un jour, j'ai découvert le parapente, et là, le parapente, je n'avais pas le vertige du tout.
Pas du
et
tout.
Voilà. Et dès l'instant que je me suis retrouvée en l'air, regarder en dessous la montagne, puisque je vole en montagne, il n'y avait plus du tout cette appréhension et cette angoisse un petit peu de tomber, quoi.
Est-ce que vous pourriez me décrire précisément ce que vous ressentez sur un sentier de montagne, Isabelle ?
Eh bien, un sentier quelconque, ça va, mais quand c'est sur une arête très effilée, il y a cette peur hein, qu'il faut contrôler. Voilà, je pense qu'il y a à la fois le côté dans la tête, hein, comme on dit, et donc je regarde mes pieds, je regarde pas en bas, voilà, je regarde où je mets les pieds et voilà.
Et alors, quand vous êtes en parapente?
Eh bien, en parapente, dès l'instant qu'on se met dans sa bulle, on prépare sa voile. Et bon, si le décollage est un petit peu restreint en surface, bon, on se met bien dans sa bulle et on décolle et on s'envole, quoi.
Et là, on peut regarder ses pieds?
Et là, non, on regarde plus ses pieds. On regarde, on essaie de sentir le vent et on regarde où on va, quoi. Oui, il faut regarder où on va, il ne faut pas regarder ses pieds.
Étonnant, hein, étonnante différence hein, de cette expérience de vertige, de peur du vide entre la terre ferme, mais en montagne et le ciel. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé. Très bonne journée à vous. Je donne évidemment la parole à l'alpiniste Elisabeth Revol. Que vous inspire ce témoignage ?
Bah, ça m'inspire beaucoup de vérité parce que effectivement, quand on grimpe, en fait, je pense qu'il y a la verticalité qui nous rattrape. Et du coup, c'est pas comme en parapente, en fait, où il y a beaucoup d'air en fait en dessous de nous. Quand on grimpe, et ben on a la paroi, et puis on a cette ambiance de vide qui est tout de suite là. Donc oui, forcément, ça m'évoque des choses parce que ce vide qui est là, c'est voilà ce gaz qui est présent, cette ambiance qui est présente. On la trouve vraiment en montagne, on la retrouve vraiment en falaise en fait.
Alors les jargons ont souvent beaucoup de charme, Elisabeth Revol, mais celui des alpinistes en particulier est magnifique. Vous parlez du gaz. De quoi s'agit-il ?
Alors oui, c'est un jargon alpinistique où quand on parle en fait du vide que l'on a derrière nous, en fait quand on grimpe, on a un vide en fait juste derrière ou un vide au-dessus de nous si on est dans une paroi qui est surplombante, voire un toit. Et ce vide qu'il y a, cette ambiance qu'il y a, on parle de gaz en fait.
Donc c'est sans doute une façon de donner de l'épaisseur au vide.
Oui, probablement pour nous rassurer ou pour être moins appelé finalement par ce point en bas, ce point de vallée, quoi.
Vous voulez dire que quand on dit gaz et pas vide, on a moins peur?
Et je sais pas d'où est née cette expression, mais en tout cas parler de gaz, oui, ça doit combler quelque chose, je pense.
Est-ce que vous vous êtes entraîné à regarder le vide pour mieux l'affronter?
Alors entraîner, je sais pas s'il y a une technique en fait d'entraînement, mais quand j'arrive en fait sur des points de relais où là je me rends compte en fait de l'immensité qu'il y a et de l'ambiance qu'il y a et du gaz qu'il y a, là je prends le temps en fait de regarder en bas et de m'imprégner en fait de ce vide. Tout ça pour me rassurer en fait et puis pour prendre voilà l'ambiance en fait de la mesure. Alors que quand je grimpe, je suis vraiment sur l'action, je suis concentrée sur mes pas, sur mes mains, sur mes pieds et du coup je suis moins appelée en fait par ce vide et moins tiré en fait vers le bas, voilà.
Vous êtes appelé par le vide, voilà qui doit intéresser l'ORL et chercheur en neurosciences qui est avec nous, Stéphane Bénard. C'est ça qui se passe quand on a peur, on est appelé par le vide?
Oui, c'est vrai qu'il y a cette sensation qui est difficile à expliquer. Finalement, cette question de peur du vide, elle est très simple. Hein, c'est quelque chose de très simple, mais c'est encore un peu une boîte noire à l'intérieur du cerveau. Et on essaie d'y travailler.
On ne sait pas encore comment ça marche, hein, c'est ce que vous dites.
Non, exactement. La relation, en fait, c'est très intéressant entre le parapente et puis d'être sur une crête. Et moi, je suis admiratif des deux autres invités parce que je le ferai pas forcément.
Mais je vous ai pas demandé si vous aviez le vertige, vous d'ailleurs, docteur.
Non, c'est-à-dire que je suis pas le plus à l'aise sur une paroi escaladée, sur une via ferrata avec mes enfants, par exemple. Hein. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, là, ça rejoint vraiment la perception de soi dans l'environnement. La perception de soi, c'est l'oreille interne, la perception de notre corps, et puis la vue, hein, évidemment, que l'on a. Et quand on est sur une arête, vous avez les sensations du sol au niveau des pieds, la vue qui vous montre qu'il y a un gouffre à côté, et puis l'oreille interne aussi qui assure aussi l'équilibration. Quand vous êtes en parapente, en fait, il n'y a plus de perception au niveau du corps, hein, parce qu'on est en train de flotter, elle est différente. L'oreille interne est stimulée complètement différemment, et le système visuel aussi. Et vous voyez que ça crée deux émotions différentes, on est gêné ou pas gêné, pour une même personne. Donc ça reste encore pourquoi et comment, ça on ne sait pas.
Le champ des possibles et les choses à découvrir sont encore immenses donc en la matière. Cyriaque Arrivel, je rappelle que vous êtes artiste de cirque et vous avez commencé, je crois, vos acrobaties par le mât chinois. Est-ce que vous pourriez nous décrire d'abord cet agrès ?
Le mât chinois, pour faire simple, c'est une sorte d'escalade sur un tube vertical. Et c'est peut-être la spécificité de cet agrès, c'est quand même une épreuve de force par rapport à l'escalade qui est plus, je pense, dans la souplesse. Il y a vraiment quand même quelque chose avec la force.
Quelle hauteur, le mât ?
Un mât, en général, ça fait 6 mètres. Après, ça peut être plus grand. Et l'autre spécificité, c'est la chute. C'est-à-dire qu'on s'accroche et on glisse. Et les figures les plus emblématiques, c'est de faire le drapeau, du coup, c'est la force. Et la chute, c'est de se relâcher et puis de s'accrocher au dernier moment avant de tomber au sol, quoi.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chutez ?
Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'état de débordement, quoi, qui se passe, et c'est super jouissif, et je pense qu'on est un peu dans des... On teste un peu des limites, je crois, et le fait de s'entraîner aussi, on arrive à peut-être un geste un peu de maîtrise, mais qu'après on essaie d'être juste dans l'adresse et d'avoir que le moment un peu de... de se rattraper au dernier moment, j'ai l'impression que c'est l'agilité qu'on peut avoir et du coup de déplacer cette technique-là à plein d'autres choses.
De tester ses limites peut-être aussi.
Ouais, de tester les limites. Et puis alors, c'était intéressant, je trouve, ce que disait Elisabeth Revol par rapport à. Moi, j'ai pensé à la terre ferme, au repère, c'est-à-dire on a le vertige quand on a un repère et en fait, quand on n'a pas de repère par parapente, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus de vertige. Et c'est vrai que le cirque, c'est vraiment un spectacle aussi. Et c'est presque la mise en scène du vertige. Il y a plein de trucs qui font un ascenseur émotionnel où on monte avec les roulements de tambour. Du coup, là, d'un coup, on crée une peur. Ou sinon, il y a plein d'autres choses qui peuvent être les trois essais, c'est-à-dire de rater les deux premiers essais et réussir finalement la figure au troisième essai.
Enfin, pourquoi trois ?
Je sais pas, c'était des conventions qu'il y a eu. Après, là, je parle d'un cirque peut-être plus classique,
traditionnel.
Et tout ça, mais en même temps, c'est des trucs super. C'est vraiment pour juste... on sait qu'il y a, une limite, on sait que c'est un spectacle, du coup il y a une part de fiction, mais en même temps le basculement entre cette fiction, enfin en même temps c'est vrai quoi, du coup il y a un peu un état limite où on sait pas trop, ça se suspend et on sait pas trop si c'est vrai ou c'est pas vrai, et c'est ça qui est, je pense, jouissif quand on va voir un spectacle de cirque.
Retomber sur ses pattes, repartir avant l'heure, rassurer sa maman, retenir la leçon, revoir son jugement, répondre aux questions, retrouver son ami, rentrer dans le noir, réentendre les mêmes musiques, repasser le film, repartir joyeux, retourner au même endroit, résister, être sûr, revoir une grande revue, revoir grande, grande.
Extrait de votre dernier spectacle, Cyriaque Arrivel, qui s'appelait Grande, spectacle que vous avez créé avec Vima Laponce. Le vertige est souvent employé au sens figuré hein, pour désigner une émotion. Est-ce que vous faites un lien entre les deux, entre la peur du vide et le ballet des émotions ?
Oui, totalement. Je crois que aussi le travail qu'on a fait avec Vimala était joué beaucoup sur les mots. Mais
effectivement, pense... maître, on s'aperçoit qu'il y a de la chute partout dans la langue française. On tombe amoureux, on retombe en enfance, on tombe de haut, on tombe des nues. La chute est omniprésente.
Bah oui, puis je pense que le moi ce que j'aime bien dans le cirque, c'est que c'est une justement on est en prise avec la hauteur, avec la voltige, la gravité, l'équilibre ou la pesanteur, le jonglage et tout ça. Et en fait, moi j'ai l'impression que le lien qu'on peut faire entre une réalité physique et une réalité sensible d'émotions, un peu ce que je trouve ce qui se passe dans Vertigo, le film d'Hitchcock, je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'il a, du coup le personnage principal attrape le vertige, en gros. Et aussi, dans sa vie, il rencontre une situation vertigineuse. Et en fait, j'ai l'impression que ce lien entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent à l'intérieur et les sentiments, moi, j'ai l'impression qu'il y a un cocktail qui est super au cirque. En tout cas, que moi, j'aime voir. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des expériences qui ont fait que d'un coup ce que je faisais sur scène aussi se retrouvait dans ma vie. Et du coup, là, c'était les moments les plus vertigineux.
Pour ne pas tomber. Il faut s'accrocher. Qu'est-ce que je suis en train de dire lorsque je dis que je tiens à quelqu'un ?
Voilà, c'est ça. Mais parce que oui, bah, bon, peut-être que je suis tombé sur scène du coup, moi. Et c'est vrai que c'était à ce moment du spectacle où je disais je tiens à quelqu'un. Ouais. Et je m'accrochais du coup.
Et vous êtes tombé de 8 mètres de haut. Hein. Grosse chute devant un public.
Voilà, c'est ça. Et du coup, je m'accrochais au pantalon de cette personne. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est déchiré.
Et vous étiez en train de dire je tiens à quelqu'un.
Oui, voilà, c'est un peu ça. Et c'est vrai que moi, sur le moment, c'était pas du tout une question de vertige ou quoi. Je pense que c'était vertigineux pour les gens. Du coup, j'en suis désolé pour eux parce que c'était très éprouvant. Mais je pense moi,
ils ont dû se demander si c'était prévu dans le spectacle d'abord. C'est le problème des chutes. Hein.
Voilà, c'est ça, exactement.
Et après la sidération.
Là, ça a basculé dans l'endroit. Pas drôle, on n'était plus dans la fiction et du coup quelque chose s'est passé. Mais c'est vrai que moi, dans ma propre vie, il y a eu quelque chose de vertigineux parce que ce que je disais, c'était aussi quelque chose que je rencontrais dans ma propre vie. Du coup, moi, le vertige, je l'ai eu finalement pas forcément à l'endroit physique, mais c'était plutôt un endroit sentimental ou émotionnel. Quoi.
Est-ce qu'on attrape le vertige ? Vous posiez à l'instant la question, je vais la poser à un auditeur qui nous a appelé au standard. Bonjour Yves !
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous. Est-ce que vous avez attrapé le vertige ?
Oui, j'ai attrapé le vertige brutalement quand j'avais 20 ans.
Vous ne l'aviez pas avant, du tout ?
Avant, je ne l'avais pas du tout. J'avais une sœur qui vivait à un septième étage. Je naviguais, donc j'avais aucun souci d'oreille interne. Je suis prof de tai chi à l'heure actuelle. Ça m'a jamais posé de problème, l'équilibre. Et puis, à 20 ans, j'ai fait cette randonnée en Norvège où, après une montée lente dans la montagne de 2 heures, donc avec aucune perception de l'altitude qui a augmenté, on s'est retrouvé brutalement au bord de la falaise d'un fjord qui faisait 200 mètres de vide en vertical. Et là, j'ai eu une sensation de jambes coupées. Je n'ai pu m'approcher de bord de la falaise qu'en rampant.
En rampant ?
Oui, en rampant, carrément. Je n'avais plus de jambes. J'aurais chuté sur place si je ne m'étais pas allongé.
D'accord.
Et depuis... le moine Kondian a franchi en Martinique. Dès qu'il y a une variation de hauteur brutale, alors peut-être que les alpinistes peuvent aussi expliquer ça, mais voilà, de passer d'une profondeur sous moi de 2-3 mètres à 10 mètres, brutalement, me crée ces sensations. Et alors, ce qui est le pire, c'est que quand je vois un être cher qui s'approche du parapet d'un pont, j'ai également ces sensations de jambes coupées. Je serais incapable d'intervenir s'il y avait un problème.
Un être cher ou un être tout court, d'ailleurs, non ?
Non. Il peut y avoir une foule sur un pont en Espagne, ça m'est arrivé.
Ça vous fait rien ?
Un monde sur ce pont, ça ne fait rien. La personne avec qui je suis s'approche du parapet de pont et la sensation de vertige se déclenche. Je voulais savoir si tout ça s'était lié, si c'était une forme de vertige particulier et si éventuellement ça se soigne.
Merci beaucoup pour votre appel, Yves. Effectivement, je vais donner la parole à Stéphane Bénard, qui est, je le rappelle, médecin ORL et chercheur en neurosciences. Vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur le vertige et sur la peur du vide, mais on a sans doute constaté que ça fonctionnait par empathie. Quand quelqu'un s'approche du bord de la falaise, j'ai peur à sa place, docteur.
Oui, il y a plein de choses intéressantes dans ce que j'entends. C'est vraiment très intéressant et je rebondirai sur le cirque après.
Ouais.
Mais on a des neurones miroirs dans le cerveau. En fait, ça veut dire que si on voit une personne exécuter quelque chose, on va activer les mêmes réseaux dans notre cerveau. Ça nous permet, ça se voit, c'est l'apprentissage, hein, ça marche par l'apprentissage, par la vue, ça vaut pour les animaux, ça vaut pour nous. Et c'est pareil pour le sensoriel. Si on voit une personne qui est au bord de la falaise, on va activer les mêmes réseaux que si c'était nous, alors d'une façon plus ou moins forte, d'une façon plus ou moins importante. Et ce qui fait que derrière, vous allez avoir exactement les mêmes sensations. Et c'est ce qui fait aussi au cirque, quand on voit les acrobates, les jongleurs et puis les trapézistes, on ressent en fait, un petit peu, on ressent ce qu'on est en train de voir. Et c'est parfois relativement très fort, et c'est ce qui fait aussi toute la beauté, et c'est pour ça qu'on va au cirque.
Yves nous disait à l'instant que s'il s'allonge ou s'il rampe, ça va mieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est même le premier à avoir décrit ça, c'est un empereur chinois. Il y a très très longtemps, c'est l'empereur Huangdi. Je suis allé rechercher dans des textes un peu avant l'émission des choses anciennes. Et en fait, ils avaient des plateformes d'observation. Hein, à l'époque, c'était assez un peu plus guerrier quand même. Mmh. Et il avait le vertige. Et donc, il décrit que la seule façon pour lui de plus être gêné, c'était de mettre genou à terre. Oh. Et donc quand vous avez une position du corps différente, notamment le fait de ramper ou le fait d'être dans une position, voilà, l'aspect genou à terre fait que la perception est différente sur le plan sensoriel, la perception du corps est différente par rapport à comment vous êtes par rapport, on va dire, au ravin, ouais. Et du coup effectivement l'émotion peut être moindre.
Alors je vous tends à présent le trampoline pour rebondir à ce que disait tout à l'heure Tsaria Karivel sur le cirque. Qu'est-ce que ça vous évoque, la façon dont cet artiste circassien parle du vertige et du vide?
Il y a l'aspect vraiment émotionnel, hein. Mmh. C'est que nous on les voit faire des choses exceptionnelles et on le ressent. Ouais. Parce que en fait, on ressent vraiment ce que eux sont dans une espèce d'état d'équilibre précaire, et ils jouent avec ça. Et derrière, en fait, il faut savoir que les arts du cirque sont utilisés, commencent à être utilisés par des psychomotriciennes, motriciens. Et justement, c'est une vraie expérience sensorielle avec des enfants, avec des adultes. Et amène les enfants et les adultes, voilà, à expérimenter, alors d'une façon moindre évidemment, hein, on leur demande pas des choses énormes, mais c'est une thérapie. Le cirque est aussi une thérapie sensorielle pour améliorer des enfants qui ont des troubles émotionnels, psychologiques et cognitifs.
On parle de notre rapport au vide dans l'été comme jamais, jusqu'à 10h.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la Roquine Carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Tu chopes des cheveux à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je me découvre. T'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire.
Vertige de l'amour. Alain Bachung sur France Inter. Nous parlons de la peur du vide ce matin. Et si on sautait du haut d'un plongeoir? Et si on se jetait de la corniche Kennedy à Marseille? Sauter dans l'eau depuis très haut, c'est un loisir assez courant. Et quand on a le vertige, on a mal au ventre, rien qu'à les regarder sauter.
Et le premier sentiment en fait qu'on a, c'est le courage en fait. Dès qu'on arrive au bord du saut, t'as une certaine mesure avec tes potes. Genre, vous êtes là, vous regardez la hauteur, ça vous fait peur, ça vous impressionne tous les deux. Mais c'est qui va aller le premier? Alors souvent, ça dit, si tu sautes, je saute. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça. En principe, si tu veux que ton pote, il saute, faut sauter le premier. Faut montrer l'exemple. Et là, tu peux montrer que t'es un peu plus courageux.
Ça dure 3 secondes, mais quand c'est de 15 mètres, ça peut durer 2 minutes. Hein. On est là, comme ça, on regarde, ça fait peur. Notre vie, elle défile. En 10 secondes.
Il y en a qui sautent pour le goût de l'interdit, il y en a qui sautent pour affronter leur peur, il y en a qui sautent pour prouver des choses à leurs potes ou pour se mesurer entre potes. Et je crois que ça, c'est une étape, en fait.
Extrait du documentaire « Plongeons de haut vol sur Marseille » diffusé sur Arte, documentaire de Jean-Baptiste Mathieu. Je suis avec l'alpiniste Elisabeth Revol, avec l'artiste circassien Thyria Carivel et avec le docteur Stéphane Bénard, médecin ORL. Affronter sa peur et se prouver des choses, voilà ce que disait ce jeune homme à l'instant. Est-ce que vous vous reconnaissez, Elisabeth Revol, de près ou de loin dans ce qu'on vient d'entendre?
Oui, je pense que je me reconnais parce que c'est vrai que quand on est enfant, enfin, il y a tout un jeu qui se crée où on se construit déjà soi-même et on se reconstruit à travers le regard des autres. Et je pense que, je sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, maintenant j'en ai conscience, avant j'en avais pas conscience, mais le regard des autres est vraiment important. Et c'est vrai que c'est à celui qui va passer le passage, à celui qui va forcer un peu les choses, à celui qui va oser. Et donc on est appelé un petit peu dans une démarche où le regard des autres en fait est hyper important et on ose des choses que nous-mêmes on n'aurait peut-être pas forcément osé si on avait été tout seul en fait. Alors ça, je parle de ça voilà dans ma jeunesse. Maintenant c'est vrai que je me suis complètement détachée de ce regard-là, mais à un moment donné voilà c'était vraiment présent et ça a fait partie en fait de ma construction et de qui je suis devenue quoi.
Et vous qui gravissez l'Himalaya, est-ce que vous êtes capable de sauter du haut de la corniche Kennedy?
C'est une bonne question.
Merci de l'avoir posée.
Merci de l'avoir posée. Il faudrait que je sois au pied pour pouvoir vous répondre.
Non, mais blague à part, vous avez peur de sauter du très haut plongeoir à la piscine, par exemple, ou pas?
Non, ça c'est quelque chose que j'ai. Alors j'ai une appréhension, mais j'ai plus peur parce qu'en fait j'ai déjà fait des sauts voilà quand j'étais petite et puis moi j'ai fait énormément de gym aussi, donc j'ai ces repères un petit peu dans l'espace, un petit peu cette construction en l'air, donc j'ai un peu fait mes marques par rapport à ça.
On parlait du gaz tout à l'heure, cette façon que les alpinistes ont de désigner le vide. La particularité du gaz, c'est qu'il est transparent. Alors que l'eau, quand on saute de très haut dans la mer, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Elisabeth Revol.
Oui, et ça fait peur.
Ah, vous voyez, vous tirez les verres du nez un peu, mais...
Exactement. Oui, moi, c'est sûr que j'ai peur de l'eau, j'ai peur de ce qu'il y a en dessous, j'ai peur un peu de ce trou noir. Voilà, ça rejoint un petit peu des fantasmes aussi que j'ai eus voilà, quand j'étais petite. Et c'est vrai que je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas un poisson dans l'eau, moi. Et donc, à la piscine, ça va, parce que je vois le fond bleu. Après, sauter dans la mer, ça m'est déjà arrivé, en fait, de faire des sauts quand j'étais en raid. Et je ne suis pas à l'aise à enclencher ce saut, parce qu'il y a ce trou noir en dessous. Et je ne sais pas ce qu'il y a.
Eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je trouve ça un peu rassurant qu'une Himalayenne comme vous ait parfois peur du vide dans un certain contexte, évidemment. Thyria Carivel, vous aussi, vous avez parfois peur du vide dans d'autres contextes qu'une salle de spectacle, une salle de cirque? Non.
Si, mais en fait, je crois que j'ai peur du vide dans un sens, parce que ça se concrétise autrement, mais en y repensant, parce que on a le stress, je pense qui existe avec le spectacle, et j'ai l'impression que la préparation qu'on a, il y a toujours le fait que c'est aléatoire, même si les gestes sont on essaie de maîtriser le plus possible. J'ai l'impression que ça crée quand même une tension physique qui se transforme aussi en tension émotionnelle. Et en fait, même je pensais, parce qu'on parlait hors antenne sur le spectacle que je vais faire après et qu'en fait qui est que sur la chute. Mais en fait je fais pas du tout de choses physiques dedans. J'ai eu besoin de faire une pause avec ça parce que c'était
il y a pas de prouesse acrobatique.
Voilà. J'ai vraiment eu besoin parce que ça fait 15 ans que je fais du cirque et en fait je sentais que j'étais quand je rentrais sur scène, je créais une tension trop forte et en fait j'ai eu besoin de faire une pause avec ça. Mais par contre, je parle que de chute, mais
Et comment disait-on déjà dans La Haine, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
Ouais.
Finalement, c'est la chute, votre point de départ du prochain spectacle. Vous revenez sur la chute que vous avez vécue lors du précédent spectacle, qui s'appelait Grande. Et cette fois, dans la dimension d'après, vous commencez par la chute.
Voilà, ça commence par la chute.
C'est une histoire à l'envers, finalement.
Ouais, exactement. Même parce que je me sens que j'étais tombé, j'avais échoué, mais c'était pas par hasard. Et du coup, je me demandais comment sortir de ça, comment sortir aussi de la chute. Et je pense que c'est intéressant aussi l'image qu'on a de la vie qui défile. Enfin, toutes ces dans une chute, qu'on voit toute sa vie défiler en quelques secondes. Enfin, je trouve des images assez intéressantes. Et c'est vrai que ça fait penser pour moi à Alice au Pays des Merveilles aussi, de tomber dans quelque chose et comment sortir de l'état dans lequel on est tombé. En tout cas, ouais, moi j'ai l'impression que c'était quand même un défi de s'attaquer en fait à ces tensions là et puis cette peur qui existe malgré tout, même qui s'est transformée d'une autre manière, je crois.
Les témoignages ce matin de nos invités et de nos auditeurs sont autant de cas cliniques pour notre chercheur en neurosciences Stéphane Bénard. Que vous inspire ce que vous venez d'entendre, docteur, et notamment cet alpiniste qui a parfois quand même un peu peur du vide?
Bah, quelque part, ça me rassure
aussi.
Oui,
voilà, vous
aussi. On n'est pas tout seul. Non, mais en plus, ça montre que finalement, ce sont des personnes qui sont très prudentes. Et il y a toujours une perception du danger. Voilà,
c'est ce qui revient beaucoup d'ailleurs dans les témoignages d'auditeurs. Hein. C'est une manière d'appréhender le danger que d'avoir le vertige. C'est assez sain.
Oui, c'est un état émotionnel ou voilà de survie aussi, hein, en disant voilà attention si je bascule dans le vide là ça va mal se passer. Mais il y a plusieurs choses. Alors en fait on le voit bien si on prend toute la population hein, dont on fait partie, on a 30% de personnes qui sont vraiment gênées, voilà, mais qui vont ça va pas déclencher de on va dire de choses émotionnelles extrêmement fortes. Vous avez 5% des personnes, c'est l'acrophobie, c'est vraiment la peur de hauteur, comme le monsieur qui en parlait très très bien, qui était jamais gêné puis qui se retrouve avec une vraie phobie de la peur du vide. Et de l'autre côté, on va avoir une partie comme nos alpinistes et puis nos acrobates et puis les funambules sur les fils. On a une petite partie de la population qui au contraire a un état émotionnel, ils vont le rechercher. Voilà. Et pourquoi est-ce que certains sont comme ça et d'autres sont extrêmement gênés? C'est vraiment très intéressant et ça rejoint, il y a des applications, hein. C'est pourquoi est-ce que, pareil, hein, le mal de mer, pourquoi est-ce qu'on a des personnes qui vont, c'est aussi une expérience sensorielle, pourquoi est-ce qu'ils sont gênés et d'autres le sont pas? Et ça, c'est un peu nos recherches vers lesquelles on s'oriente aujourd'hui.
Voilà, ça raconte finalement la diversité de l'espèce humaine. Nous ne sommes pas du tout égaux face à cette angoisse. Alors vous en parliez à l'instant, les funambules, Stéphane Bénard, cap ou pas cap de marcher sur un fil à 400 mètres au-dessus de New York. Philippe Petit a tendu un fil entre les deux tours du World Trade Center. C'était en 1974, traversée illégale au sommet des deux tours. Il raconte au micro de Jacques Chancel.
Oh, le vertige, il est partout autour du fil, parce que l'espace, l'homme n'est pas fait pour aller sous les eaux, pour aller dans les cieux. L'homme est fait pour marcher par terre. Et donc, quand on s'aventure dans ces mondes hors la loi, on est très fragile et il ne faut pas s'attarder trop. Et la raison pour laquelle je suis parti de ce fil, c'est parce que j'avais lancé une sorte de danse dans les nuages et il fallait pas trop s'attarder, il fallait pas mettre les dieux en colère. Et oui, on est hors la loi quand on est à 400 mètres du sol sur un petit fil. Et j'ai regardé en bas, peut-être par curiosité, parce que je savais que jamais de ma vie j'allais être de nouveau assis sur ce fil. Et ce qui était très bizarre, c'est que le temps avait changé. Il y avait tout New York qui grouillait. Mais c'était du grouillage. On dit du grouillage, je sais pas. C'était du grouillement. Au ralenti. C'était vraiment des petites fourmis dont on ne voyait pas la tête. On voyait deux petites jambes. Et ça allait au ralenti. Les voitures passaient au ralenti. Le temps avait changé.
Du grouillage au ralenti. Est-ce que vous avez déjà constaté une chose pareille, Elisabeth Revol? Est-ce que le temps s'écoule différemment quand on défie les lois de la pesanteur?
Oui, complètement. Par rapport au temps, chaque fois que je grimpe, en tout cas, moi, je suis hors du temps. Le temps s'arrête et je suis concentrée dans mon moment. Et il peut passer une heure par longueur ou une demi-heure. Je vais pas me rendre compte en fait de ce moment-là parce que je suis vraiment sur l'action. Je suis concentrée sur mon passage. Je suis concentrée sur la lecture. Et je suis concentrée pour avancer. Donc oui, ce décalage du temps, elle est vraiment présente en grimpe, en alpinisme et encore plus en Himalaya.
Et en haut d'un mât chinois de Syria Carivel, est-ce que vous faites comme Philippe Petit? Vous avez un rapport au temps qui change?
Non, j'ai jamais senti ça. Mais je trouve ça super, son expression hors la loi. Là, je trouve ça génial.
Vous aussi, vous vous sentez hors la loi?
Non, mais hors la loi de la gravité, on va dire. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est tellement au présent que j'ai l'impression qu'il y a toutes les règles un peu disparaissent. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de dérèglement d'un univers de règles et qui du coup je trouve ça super hors la loi. Mais en plus lui il était vraiment tellement haut, enfin c'est complètement dingue ce qu'il a fait.
Il s'est allongé sur le fil, moi ça me fait mal au ventre rien que d'y penser. Stéphane Bénard, on a de jolies questions d'auditeurs et d'auditrices qui nous parviennent, notamment autour du rêve. « Je n'ai pas le vertige », écrit Florence, « mais parfois je cauchemarde du fait de passer près du vide et de tomber. Le vertige va-t-il jusqu'à notre inconscient ?» demande cette auditrice. Et Benjamin nous écrit ceci. « Y a-t-il une signification du rêve de chute ou de vertige tellement fort qui souvent nous réveille en panique ?»
Alors là vous êtes dur avec moi hein, parce que là ça déjà on a
vous allez
mal
nous dire encore qu'on n'en sait rien
exactement l'émotionnel. non mais c'est très intéressant, c'est vraiment enrichissant. En fait voilà, il y a des vécus de rêves qui nous induisent des sensations et des émotions plutôt des émotions. Il y a un aspect sensoriel jusqu'à nous réveiller. Donc finalement c'est un phénomène d'alerte hein, on rejoint probablement voilà, on est dans une situation dangereuse et du coup ça va nous réveiller. C'est la seule chose que je pourrais dire. Après, la signification particulière voilà, d'avoir une sensation de chute, c'est plus compliqué. Il faut avoir un peu le vécu de chaque personne. Et puis après, les rêves, on a encore beaucoup de mal à les interpréter.
Qu'aimeriez-vous découvrir de votre vivant, si j'ose dire, Stéphane Bénard? Qu'aimeriez-vous comprendre sur la peur du vide?
C'est surtout justement, et c'est ce qu'on entame nous comme travail avec un collègue, je fais un petit coucou à Quentin Montardi, ça va lui parler, qui est un spécialiste de l'émotion et du vertige et d'autres collègues que nous avons, c'est vraiment la connexion entre la perception sensorielle que l'on a, de l'environnement, hein, vous êtes sur un mât, sur un fil, vous êtes au bord d'une arête pour les alpinistes, et puis vous êtes, on fera un petit clin d'œil à Thomas Pesquet, et puis au vol qui a eu lieu.
Vertige, lui, là-haut.
À vous retrouver voilà dans une situation où il n'y a plus de gravité terrestre, eh bien derrière ça crée des émotions et ces émotions là, la connexion entre les deux, on la connaît très mal, on ne sait pas pourquoi certains c'est positif et d'autres c'est plutôt négatif. Et plus on va comprendre cette boîte noire, nous c'est ce qu'on entame comme travail ici au CHU de Caen, à explorer les patients avec des nouveaux systèmes de stimulation sensorielle, mieux derrière on va adapter les thérapies, l'aspect thérapie et l'aspect rééducation pour des personnes qui ont le vertige, pour des personnes qui ont du mal à marcher aussi, des troubles de l'équilibre, et puis évidemment des personnes qui se retrouvent avec de l'agoraphobie.
Alors le temps file et on aurait pu passer 7 heures sur ce sujet très riche. Elisabeth Revol, j'aimerais prendre le temps rapidement de vous faire parler de votre expérience de prof d'EPS. Vous avez donné des cours d'escalade à des enfants. J'aimerais savoir si vous avez senti, je sais pas, une peur différente, quelque chose qui se jouait de différent chez les enfants dans le rapport au vide.
Alors oui, d'un enfant à l'autre, déjà, il va pas y avoir la même sensibilité, la même appréhension, et il y en a qui vont être tout de suite très à l'aise. Il y en a qui vont aussi, comme on disait, il y a un peu l'ego qui se met en avant, donc ils vont vouloir y aller, et puis à monter un peu plus haut que l'autre, un petit peu pour la fierté. Et puis il y a aussi ces jeunes qui osent pas, qui ont pas confiance déjà dans le matériel, donc il faut les rassurer, il faut les mettre en confiance déjà dans le matériel. Et puis il faut les faire monter petit à petit, les rassurer, et après il y a aussi l'émulation du groupe qui va aider justement ces jeunes, et on se rend compte que voilà, au fur et à mesure en fait des séances, et celui qui avait vraiment peur, et il a quand même atteint le sommet de la voie, et il est redescendu, et après voilà, il y a une gestuelle forcément qui est différente d'un élève à l'autre, mais dans tous les cas, dans ce rapport au vide, et tout le monde arrive quand même à atteindre le sommet de la voie sans, je vais pas dire sans appréhension, mais en gérant un petit peu mieux ses émotions et en osant du coup quand même aller là-haut quoi.
Et personne ne grimpe pas finalement.
Non, personne ne grimpe pas, non. Non, non, parce qu'on arrive quand même à les mettre dans... les mettre en confiance déjà, surtout par rapport au matériel, parce qu'on se rend compte qu'au départ c'est vraiment le matériel qui pose problème. On n'a pas confiance en baudrier, on n'arrive pas à s'asseoir en fait dans un baudrier, on n'arrive pas à s'asseoir et mettre les pieds devant simplement pour descendre. Et à partir du moment où on a géré en fait cette première étape du matériel, monter un peu plus haut, puis encore un peu plus haut, puis encore un peu plus haut, finalement y aller un peu crescendo, les enfants y arrivent, et après il y a vraiment une fierté qui est là pour l'enfant, et ça l'a vraiment aidé à se construire en fait aussi intérieurement et à repousser un petit peu ses limites.
Allez, dérives urbaines dans la ville cannibale, et on a terminé avec cette fierté des enfants. Voici Françoise Breut sur Inter.
Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée, le monde s'embourbait dans les rues encombrées, poursuivi par des averses sans fin. Vite, nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée. Escalator mécanique désarticulé, on se pressait dans la mêlée sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux, 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 flux. Le flou flou de la foule, le flou flou de la foule, le flou flou de la foule, le flou flou de la foule. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas, tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes défoncer les chaussées décrépites.
Jamais sur France Inter. Mes trois invités ont parlé de la façon dont ils ont apprivoisé le vide et le vertige. Nous voilà arrivés au terme de l'émission et j'ai une dernière question à vous poser à tous les trois. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. Elisabeth Revol, alpiniste, vous commencez ?
Oui, moi, un sujet où je change d'avis actuellement, c'est par rapport à mes croyances. Donc moi, je continue en fait à gravir les montagnes, mais je gravis aussi ma propre montagne intérieure. Donc il y a beaucoup de choses qui se changent à l'intérieur de moi actuellement.
Que c'est joliment dit. Et vous, Stéphane Bénard, médecin, neuroscientifique, sur quel sujet avez-vous changé d'avis ?
Je vais être très basique, mais finalement, je pensais que la peur du vide était mieux que le vertige pour exprimer cette sensation. Et finalement, la peur du vide, c'est mauvais, parce que le vide, c'est le vide dans l'espace. Alors qu'en fait, il y a du gaz. Et donc, c'est Elisabeth qui a raison, mais on peut pas dire la peur du gaz. C'est pas bon. Et finalement, nos anglo-saxons, c'est la peur des hauteurs, et je pense qu'ils ont raison.
Très bien. Thyriac Arrivel, la parole est au circassien. Avez-vous changé d'avis ?
Oui, alors moi, ça n'a rien à voir du tout. Mais quand j'ai pensé à cette question, je me suis rendu compte qu'il y a un truc sur lequel je changeais beaucoup d'avis, là. C'était sur le numérique. Et en fait, je fais de la pub pour vous, mais c'est l'émission Le Code a changé. Je trouvais ça super intéressant.
Xavier Delaporte, ouais, passionnant, en effet.
Parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui m'envahit. Et j'avais besoin d'un peu d'outils, de réflexion. Et je trouve que c'est super les expériences qui sont nommées, tout ça.
Enfin, c'est super. Quand
touchante la réponse à la question de la fin. C'est de la pub pour France Inter, franchement. Merci à vous. La dimension d'après, c'est votre nouveau spectacle, Thierry Acarivel, avec Vim à la Ponce, et vous serez en tournée prochainement le 30 septembre à Elbeuf, les 23 et 13 novembre à Lille, les 24 et 25 novembre à La Rochelle. Toutes les infos, bien sûr, sont à la page de L'été comme jamais sur le site internet de France Inter. Vivre, c'est le titre du livre d'Elisabeth Revol aux éditions Artaud. Et je remercie au passage les studios de France Bleu à Caen pour la liaison en duplex avec le docteur Stéphane Bénard. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci. Merci. Et bonne journée.